Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Europe, es-tu là ? Europe, es-tu là ? Bah oui, la question mérite d'être posée. La culture et l'Europe, c'est notre thème. Pourquoi la culture et l'Europe après toutes les dissensions politiques, le non-référendum, les dissensions au sommet de Bruxelles, etc. On pourrait parler de l'Europe politique, de l'Europe économique, mais on a choisi le thème de la culture. Et vous allez voir, ce n'est pas anodin. Et Anne-Marie Autissier, qui est notre invitée, va justement nous montrer qu'il y a un paradoxe. Hein. Il y a un paradoxe, je n'en dis pas plus, mais... Elle l'expose dans son ouvrage qui est intitulé précisément « L'Europe et la culture, histoire et enjeux ». Anne-Marie Autissier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue. On va attaquer d'ailleurs le sujet sous l'angle de la sociologie. Hein. Vous êtes agrégé de lettres modernes, docteur donc en sociologie. Vous enseignez la sociologie de la culture et les politiques culturelles européennes à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8. Et d'ailleurs, vous allez tout de suite nous dire un mot de l'Institut d'études européennes.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête-là ?
Qu'est-ce que c'est que cette bête-là ?
L'Institut d'études européennes. Donc, c'est un institut pluridisciplinaire qui a été créé il y a 12 ans au sein de l'Université de Paris 8 Saint-Denis. Et avec, avec plusieurs filières, une filière plutôt commerce international, une filière plutôt culture. On reçoit à peu près 400 étudiants par an. Et ce sont des étudiants qui entrent au niveau du deuxième cycle, soit pour une maîtrise des sciences et techniques, soit pour des DESS. Enfin, tout ça maintenant va s'appeler Master 1, Master 2, etc. Et ce qui est remarquable aussi dans cet institut, c'est que on a un tiers de nos étudiants excellents francophones, mais pas français.
Un tiers,
oui.
Donc déjà une notoriété internationale certaine.
Oui, on a beaucoup de gens qui viennent d'Europe centrale et orientale, de Russie, d'Amérique latine, d'Asie.
Donc vous conjuguez l'Europe au pluriel sous tous les sens, si on peut dire.
Oui.
Depuis longtemps ?
12 ans. Ça fait 12 ans que cet institut existe.
Ça coïncide aussi à peu près avec le traité de Maastricht, grosso modo.
Oui, ça correspond aussi à un moment où des personnalités qui étaient à l'Université de Paris 8, en particulier Bernard Cassen, qui est actuellement président du monde diplomatique, et Mireille Azoug, qui à l'époque dirigeait le département de langue étrangère, ce sont des personnalités, si vous voulez, qui ont vraiment voulu rentrer dans le vif du sujet et se dire, bon, puisqu'on est des universitaires, alors allons-y, étudions l'Europe sous toutes les coutures.
Étudions l'Europe sous toutes les coutures. Alors du moins, sous la couture, culture, hein, les deux mots se ressemblent quasiment. La culture et l'Europe, c'était aussi le thème d'un colloque auquel vous avez participé, organisé par la Fondation Saint-Gerre-Polignac. La culture et l'Europe, alors je parlais de paradoxe. Pourquoi un paradoxe ?
Pourquoi un paradoxe ? Parce que je crois que, de toute façon, la culture et l'Europe, c'est paradoxal. Plus largement, la relation toujours entre la culture et l'art et les institutions qui s'en occupent, c'est toujours paradoxal. C'est toujours très difficile, très décalé. Mais dans le cas de l'Europe, je dirais que le premier paradoxe, c'est qu'en fait, la culture comme compétence communautaire est arrivée très tard, puisqu'elle n'est arrivée que dans le traité de Maastricht. En même temps, beaucoup de gens ont commencé à travailler sur la coopération culturelle européenne sans attendre, au fond, la validation, si vous voulez, institutionnelle.
Elle est arrivée très tard, à la faveur de quelle actualité, de quelles pressions éventuelles, de quelle prise de conscience ?
Bah, je dirais qu'elle est arrivée, à la faveur d'une prise de conscience progressive des États membres dans le domaine culturel, qui d'ailleurs a commencé plus par la dimension cinématographique et audiovisuelle que la dimension du spectacle vivant. C'est-à-dire que d'abord, on s'est inquiété pour les industries de programmes européennes. Et puis après, on s'est dit, bon, finalement, puisqu'on a commencé à travailler sur le cinéma et l'audiovisuel, on pourrait aussi travailler sur le théâtre, les arts plastiques, etc. Et je dois dire qu'il y a un interlocuteur dans le triangle institutionnel, il y a un interlocuteur très important, c'est le Parlement européen. C'est-à-dire que les parlementaires européens, et c'est d'ailleurs intéressant parce que ça dépasse très largement les clivages politiques, les parlementaires européens ont toujours été passionnés par la dimension culturelle de l'Europe et ont toujours été dans une situation de faire pression au fond, hein, sur à la fois sur la Commission européenne comme exécutif, mais aussi sur les États membres en disant mais qu'est-ce que c'est que cette Europe, qui cette Union européenne qui accorde si peu d'importance à la culture.
Donc là, on est au début des années 90, au moment où émerge cette prise de conscience. Bon, et le chemin parcouru ?
Alors, le chemin parcouru depuis les années 90, bah, c'est quand même... Alors, c'est toujours la même histoire. On peut regarder le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Vous entendrez souvent des gens dire « Oh, la culture, il n'y a pas de politique culturelle européenne, enfin communautaire, tout au moins, ça ne marche pas, c'est 0, le programme Culture 2000, c'est à peu près, dans l'état actuel des chiffres, c'est 0,06%. » du budget de l'Union européenne, donc on est loin des 40% pour la PAC ou autre chapitre budgétaire.
C'est presque symbolique.
C'est presque symbolique. Mais en même temps, quelque chose s'est passé. Et ce qui s'est passé, je crois, c'est une facilitation. L'idée qu'on ouvrait un nouvel espace, qu'un nouvel espace de partage était possible, et du coup, les professionnels de l'art et de la culture ont investi cet espace. Et ils l'ont investi, je dirais, bien au-delà des capacités institutionnelles.
Bon, il y a la question, quand on parle identité culturelle, politique culturelle européenne, de quoi parle-t-on ? Est-ce que le Portugal va se reconnaître dans l'œuvre des Suédois ou des Danois ? Est-ce que l'Italie va se reconnaître dans les œuvres irlandaises ? Ça existe ? Ça correspond à une réalité ?
Je crois qu'il y a quelque chose qui correspond à une réalité, ce sont des grands courants artistiques qui sont nés en Europe et en effet qui sont très caractéristiques parce qu'ils sont contradictoires de façon transnationale. Il y a eu un romantisme européen, il y a eu un art baroque européen, il y a eu un surréalisme européen pour prendre certains exemples. Donc on ne peut pas nier qu'il y a une dimension transnationale de ces courants. Et puis on sait bien que le milieu artistique, c'est toujours par tradition un milieu extrêmement mobile. Donc c'est pas, je veux dire, les artistes ont toujours, et les intellectuels finalement ont toujours circulé. Je crois que ce qui est nouveau et ce qui date du projet institutionnel européen, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, c'est tout d'un coup un retournement en termes de conscience. C'est-à-dire tout d'un coup, on prend conscience qu'on appartient à un espace commun. Et on n'a pas su voir cet espace commun avant. Mais à partir de ce moment-là, comme le dit l'historien Robert Frank, la conscience modifie l'identité. C'est-à-dire d'une certaine manière, on regarde en arrière, on regarde notre passé, notre histoire, on se dit, mais au fond, on a tellement en commun et depuis tellement longtemps, mais on ne le savait pas.
L'Europe de Voltaire, qui allait en Prusse, à Saint-Pétersbourg, ça concernait une élite.
Oui, c'est ça. C'était très peu partagé. Ça concernait, on peut parler de l'Europe d'Erasme. Bien sûr qu'il y a eu des moments comme ça, avec l'humanisme, la Renaissance, qui est quand même tout à fait au cœur, je dirais, du projet culturel européen. Hein. Ça, c'est une discussion qu'on peut avoir jusqu'à demain. Vous savez, Paul Valéry disait « Toute terre qui a été hellénisée, romanisée, christianisée est européenne ». Comme ça a l'air de fonctionner, mais en réalité, vous apercevrez, si on prend des exemples, que ça ne fonctionne pas tant que ça.
Par exemple ?
Par exemple, qu'est-ce qu'on fait des pays de l'Europe centrale et orientale qui ont été... hellénisés, islamisés et romanisés. On fait quoi avec eux ? On les intègre pas ? Qu'est-ce qu'on fait de l'Andalousie ou du sud du Portugal ? Qu'est-ce qu'on fait des barbares ? Les Celtes, les Germains qui sont venus du nord, les Lombards qui sont descendus jusqu'en Italie, les Visigoths, les Ostrogoths qui étaient restés imperméables à la colonisation romaine et qui n'en ont pas moins relancé et fait germer cette Europe contemporaine.
Donc l'Europe ne se résume pas à Rome, Athènes, Jérusalem ?
Ben non, parce qu'il y a les Slaves, il y a beaucoup d'apports. Je crois qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est que si on veut résumer les héritages, alors on se trouve à la tête de multiples héritages, on ne saurait pas quoi choisir. Et c'est pour ça que je suis assez d'accord avec Edgar Morin pour dire que s'il y a quelque chose de spécifiquement européen, c'est peut-être effectivement ce moment de la Renaissance, qui est un moment d'une certaine prise de conscience aussi du rôle de la religion. la connaissance par rapport à la religion. Est-ce que la religion doit être le creuset de toute connaissance, par exemple? Est-ce que ça doit être la mesure de toute connaissance? Non. C'est à ce moment-là que la Renaissance invente ou réinvente, si on peut dire, l'Antiquité. Enfin, en tout cas, qu'elle utilise tout ce qui l'arrange pour précisément montrer que on est quand même, en tant qu'humain, des sujets pensants et puis qu'on peut avoir une certaine mesure de l'homme qui est fondée sur la raison, sur la tolérance. Enfin, et puis ça annonce l'humanisme, bien
sûr. C'est le questionnement sur soi.
C'est le questionnement sur soi. Exactement. Edgar Morin dit c'est la capacité à remettre en cause toutes les idées. Et je trouve que c'est intéressant. Il dit, en Europe, jamais aucune idée n'a été sacrée. Ou même quand une doctrine a été sacrée, il y a eu toujours quelqu'un pour parler de la doctrine contraire. Donc finalement, aucun débat n'est tabou. Ce serait un peu ça l'idée européenne.
On pourrait reprendre la phrase d'Oswald Spengler. L'Europe est moins un continent, une donnée géographique, qu'une partie de l'esprit humain.
Oui,
c'est une définition qui vous va bien.
Oui, je trouve. Moi, j'ai envie de vous dire, l'Europe, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, c'est un rapport aux choses, c'est un rapport à l'art, un rapport à la culture, beaucoup plus qu'un contenu ou des contenus.
Mais alors, se pose la question, si c'est un état d'esprit, après tout, pourquoi être strictement européen? On imagine que les Canadiens ou les Australiens peuvent partager la culture européenne. Et s'il faut se poser, faut-il se poser en s'opposant aux autres?
C'est toujours plus facile de se poser en s'opposant aux autres. L'Europe s'est aussi constituée là-dessus, bien entendu, comme tous les autres, toutes les autres grandes civilisations se sont constituées contre, à un moment donné, quelqu'un ou quelque chose. Le paradoxe dans lequel l'Europe culturelle se trouve, c'est que l'Europe culturelle a été dominante pendant des siècles. Et ça veut dire qu'elle a universalisé ses valeurs. Elle a universalisé son architecture, son art, sa littérature, etc. Et puis d'ailleurs, elle a tellement, l'expérience a tellement réussi qu'après, ça lui est revenu en boomerang, sous forme de rejet de la colonisation, de l'esclavage, etc. Et finalement, on voit bien comment, d'une certaine manière, l'Europe est... j'aime bien cette expression de Massimo Cacciari, un philosophe italien. Il dit, finalement, dans l'histoire, l'Europe n'a jamais tenu en place. Elle est toujours sortie de ses limites. Et dans ce sens-là, on peut dire que l'Europe, c'est effectivement beaucoup plus une conception culturelle qu'une conception géographique.
Donc la politique culturelle européenne, est-ce qu'elle a des limites? Vous la marquez? Vous la délimitez?
Alors, de toute façon, c'est
pour
tout...
savoir de quoi on parle.
Oui, pour savoir de quoi on parle. Moi, je dirais il y a deux façons de borner les choses, de les limiter, comme vous dites. Il faut bien prendre des limites. On peut se dire d'abord que la culture européenne ou disons les cultures européennes ou le partage culturel européen, partage culturel et artistique européen, évidemment, il dépasse largement les frontières de l'Union européenne. Parce que qu'est-ce qu'on fait des Suisses ou qu'est-ce qu'on fait de la Norvège ou qu'est-ce qu'on fait de...
Oui, ça paraît absurde de les maintenir à l'écart.
Voilà, donc c'est vrai que dans ce sens-là, on est beaucoup plus dans cette Europe du Conseil de l'Europe, d'ailleurs, qui a aujourd'hui 47 États membres et qui va très très largement vers l'Est, dont la Turquie, d'ailleurs, au passage, a été un des membres fondateurs. Alors ça, c'est une façon de limiter les choses. L'autre façon de limiter les choses, c'est de dire, bon, il y a un engagement commun qui a été pris par un certain nombre d'États qui ont bien voulu faire un certain abandon, un relatif abandon de souveraineté et qui ont bien voulu déléguer des compétences à un exécutif, à un Parlement européen. Aujourd'hui, ils sont 25. Et nous devons, en termes de coopération culturelle concrète, travailler dans l'optique de ces 25.
Canal Académie rend hommage aux grandes figures historiques de l'Institut de France. Jean-François Revel, de l'Académie française, décédé en 2006. Jacques Bainville, également journaliste et également immortel de la française, mais d'une autre génération. Les frères Rénac, grandes figures de la Troisième République, dont l'un d'entre eux, Salomon, était membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. François Arago, scientifique du XIXe siècle, membre de l'Académie des sciences dès l'âge de 23 ans. Charles Trenet et Delacroix, tous deux membres de l'Académie des beaux-arts. Roger Arnaldez, philosophe de la pensée orientale médiévale, ainsi que beaucoup d'autres figures de l'histoire des académies qui, je vous le rappelle, remontent jusqu'au XVIIe siècle.
La culture et l'Europe, éclairage avec Anne-Marie Autissier, sociologue, maître de conférence à l'Institut d'études européennes à Paris 8. Justement, vous disiez à l'instant, coopérer à 25, quel est le visage de la politique culturelle européenne? S'agit-il de chaque nation qui essaie d'imposer son schéma ou bien est-ce qu'on met en commun une idée que l'on essaie d'agrémenter à une sauce commune ?
Alors en fait,
prenons des exemples concrets.
Oui, oui. Exemple concret. Bon, d'abord, si vous reportez au traité, vous verrez que l'article culture, qui est actuellement dans l'état actuel du traité, l'article 151, c'est un article très très court qui consacre au fond des compétences complémentaires de l'Union européenne en matière culturelle. C'est-à-dire qu'on sent très bien, à travers la lecture de cet article, que ce sont les États membres qui garde au fond la main, qui garde une souveraineté en matière culturelle. Alors, c'est encore un des paradoxes, c'est-à-dire que l'art et la culture européens sont pas nés dans des contextes nationaux. Ils sont nés dans des contextes infranationaux ou supranationaux, mais infranationaux, c'est-à-dire au niveau de collectivités, de cités-états, de principautés, de choses comme ça. Bon, à un moment donné, ils sont rentrés dans la boîte des États-nations, et maintenant, évidemment, on est là-dessus.
Ils en dépendent.
Donc, effectivement, là, il y a une volonté de souveraineté des États, qui, je dirais, est renforcée aussi par l'adhésion des États membres de l'Europe centrale et orientales, qui eux-mêmes sont dans une phase, je dirais, de récupération nationale et qui ont bien besoin, disons, d'affirmer les choses, notamment à travers l'aspect culturel et artistique.
Donc déjà, si je vous suis, les États ne sont pas prêts de se délester de leur boudin culturel.
Voilà, les États ne sont pas prêts de se délester, d'un côté. D'un autre côté, je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup d'argent, et ça c'est le résultat du vote des États aussi. Hein. Si Culture 2000, qui est le programme cadre pour la culture, a aujourd'hui un budget si petit, c'est aussi parce que les États membres n'ont pas voulu y donner plus d'argent, malgré les demandes réitérées du Parlement européen d'ailleurs. Hein. Alors donc, ça reste une matière finalement très, très en prise au niveau des États. Par exemple, on exclut toute harmonisation des dispositifs, des statuts, par exemple, artistiques. Bon, vous savez, on a beaucoup parlé du statut des intermittents en France, qui est quelque chose de tout à fait unique. Mais on pourrait parler des freelances ou des entrepreneurs anglais. Aujourd'hui, 50% du monde artistique britannique est entrepreneur, par exemple. Vous voyez, c'est des gens qui créent leur entreprise et puis qui travaillent comme ça. Bon, on pourrait parler des salariés des théâtres allemands. Enfin, on aurait 1000 situations différentes. Et ça n'est pas harmonisé, et ça reste vraiment du ressort des États membres. Donc, qu'est-ce qui reste à l'Union européenne ? Ce qui reste à l'Union européenne, c'est de pouvoir à la fois inciter des actions de coopération. Et alors, par exemple, pour revenir au programme Culture 2000, c'est un programme qui soutient à peu près 200 projets par an. Alors, je peux vous donner 2-3 exemples, si vous voulez.
Bah oui.
Par exemple, prenons un exemple d'origine française qui s'appelle Théorème. Théorème qui a été au départ initié par le Festival d'Avignon, Bernard Fèvre d'Arcier quand il dirigeait le festival. C'est l'idée de faire connaître dans les principaux festivals d'Europe de l'Ouest les nouveaux metteurs en scène, acteurs, artistes de l'Europe centrale et orientale. Et c'est un projet, si vous voulez, qui a été conçu à partir de 2000, justement pour accompagner et préparer en quelque sorte l'élargissement au 1er mai 2004, mais pour l'accompagner du point de vue artistique et culturel.
Donc c'était presque aussi un peu politique.
C'était un peu politique aussi, et c'est un projet qui a permis de regrouper aujourd'hui, je dirais, une dizaine de partenaires. Bon, c'est des festivals très importants comme le Festival d'Édimbourg, enfin des festivals très connus en Europe. Et ces festivals, les gens de ces festivals délèguent des gens qui choisissent des productions, qui permettent de les coproduire, de les accompagner. Bon, je prends juste un exemple, Arpad Schilling. Si on avait dit Arpad Schilling en Hongrie il y a 10 ans, c'était quelqu'un, non seulement, enfin il était connu, mais il était connu pour faire scandale, c'est-à-dire que tout l'establishment hongrois, tout l'establishment hongrois du théâtre ne voulait pas entendre parler de cet enfant terrible qui ridiculisait quelque part les valeurs hongroises, etc. Bon, Arpad Schilling a explosé en Europe, et aujourd'hui évidemment il est connu en Europe et au-delà, et il est bien entendu reconnu dans son propre pays. Donc il y a eu ce type de choses. Donc je crois que, si vous voulez, ça c'est ce qu'on appelle la coopération. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui remplace les politiques culturelles nationales, c'est quelque chose qui intervient en complément. C'est-à-dire que c'est à un moment donné donner la possibilité à des professionnels de l'art, de la culture, à des artistes ou à des producteurs de travailler ensemble, de coproduire des spectacles, de les faire circuler, de faire ensemble des expériences. Bon, par exemple, il y a des choses qui sont très très répandues dans le domaine artistique, c'est ce qu'on appelle les masterclass, parce que bon, c'est pour apprendre à être artiste, c'est pas tout à fait comme dans une école normale.
Sans on imagine.
Et donc souvent, ce qui est intéressant, c'est que même pour des gens chevronnés qui ont déjà fait des études artistiques, c'est intéressant de les confronter avec ce qu'on appelle un maître, quoi. De faire une masterclass avec Pina Bausch, si on est chorégraphe, par exemple, ou danseur. Bon, donc de regrouper toute une série de gens autour d'un maître. Bon, ces masterclass aujourd'hui, avant elles se faisaient au niveau local ou national, aujourd'hui elles se font au niveau européen. C'est-à-dire on va regrouper des chorégraphes de toute l'Europe autour, encore une fois, d'un Pina Bausch ou d'un Yann Fabre ou de quelqu'un qui va, ou de Teresa Kersmacher, de quelqu'un qui va les prendre en charge, si vous voulez, en tant qu'aînée, disons.
Bon, mais alors, ça, Anne-Marie Attissier, sur l'initiative de qui ? Ce sont des privés qui vont frapper à la porte de l'État, coucou, on a besoin de monter un masterclass, ou bien c'est la Commission européenne qui, dans sa grande conscience culturelle, décide de se dire, ah bah oui, il faut faire ça.
Bah, c'est un jeu à deux, hein. Vous savez, c'est comme les parties de tennis, il vaut mieux être au minimum deux.
Alors, qu'est-ce qu'il y en a bien qui prend l'initiative,
oui,
aussi.
L'initiative, disons que... Je ne sais pas, je pense que ce qui revient à la Commission européenne, c'est cette idée qu'à un moment donné, il y a un cadre qui existe. La Commission européenne, qu'est-ce qu'elle fait ? Enfin, l'Union européenne plutôt, c'est-à-dire les États membres, le Parlement, la Commission discutent, mettent en place des programmes, ils lancent chaque année des appels à propositions, ils ont toute une série de critères, les dossiers sont étudiés sur la forme et sur le fond, ils réunissent des jurys indépendants d'experts, bon, je vous passe les détails, et donc effectivement, finalement, 200 projets sont sélectionnés. Alors bien sûr, l'Union européenne, elle fonctionne en fonction d'un certain nombre de lignes, de critères, qui sont aussi des critères financiers, des critères d'organisation. Mais n'oubliez pas qu'elle ne met que 50% du budget d'un projet. Donc de toute façon, les autres 50%, il faut bien les trouver quelque part.
Mécénat ?
Alors,
ou État ?
Mécénat, État, collectivité territoriale. Et puis, je dirais qu'il ne faut pas simplement voir la question du point de vue financier. Je crois que le grand mérite de cette Europe institutionnelle, même si, bon, on la critique souvent, c'est que, si vous voulez, encore une fois, elle a donné des perspectives, elle a donné des vraies perspectives institutionnelles. Donc, à partir du moment où les perspectives existaient, les acteurs culturels, les artistes se sont dit, eh ben, on y va, on fait des choses ensemble. De toute façon, ils faisaient déjà des choses ensemble. Donc, on va les faire encore plus, encore mieux. Et puis, si l'Union européenne peut être un partenaire, alors c'est très, très bien. Et donc, il y a cette espèce de jeu, finalement, mais dans lequel il faut reconnaître, évidemment, un grand mérite aux professionnels.
Mais alors, si je vous suis, l'Union européenne, c'est un coup de pouce, mais pas grand-chose de plus.
C'est un coup de pouce. Mais c'est quand même ça peut quand même être un sacré coup de pouce. Imaginez un projet qui fait 50 000 euros. Si la Commission européenne vous en donne déjà 25 000, bon, je suis d'accord, faut trouver le reste.
Bien sûr.
Quand même, c'est déjà pas mal.
200 projets, dans quel domaine ? Tous les domaines ?
Tous les domaines.
Il y a des quotas ? Alors, est-ce qu'il y a des quotas par pays ? Est-ce qu'il y a des quotas par type de projet ?
Non, il n'y a pas de quotas par pays. Il y a eu, depuis 2000, il y a eu des années où il y avait des priorités annuelles annoncées. Par exemple, on disait telle année, c'est l'année du patrimoine, ou telle année, c'est l'année du spectacle vivant, ou telle année, c'est l'année des arts visuels. Mais en fait, normalement, le programme 4 Culture 2000 est ouvert absolument à toutes les disciplines artistiques.
Quand on dit toutes les disciplines, est-ce qu'il y a une nomenclature ?
Oui, il y a une nomenclature, les arts visuels, le spectacle vivant, ça c'est musique, théâtre, l'édition, le patrimoine.
Ça fait quand même beaucoup.
Oui.
Il n'y a pas que le cinéma, quand on pense à politique culturelle.
En plus, le cinéma et l'audiovisuel ont leur propre programme. Ils ont leur propre programme, c'est Média Plus pour le cinéma et l'audiovisuel.
Et on se partage les 0,00006%.
Non, parce que Média est adossé... Alors, c'est intéressant, ça. Média est adossé à l'article 157, qui est l'article politique industrielle. L'argumentaire de Média, ça a été de rendre compétitives les entreprises de l'audiovisuel et du cinéma. Et du coup, le programme a été beaucoup mieux doté dès le départ. Par exemple, pour 2007, la proposition pour Culture 2000, pour 2007-2013, c'est un peu plus de 400 millions d'euros. Et c'est pas gagné, ça, c'est une proposition de la Commission européenne. Pour Média, c'est pratiquement gagné que le programme pour les mêmes années va avoir plus d'un milliard d'euros. Donc vous voyez la différence.
Culture
Éclairage a pour thème la culture et l'Europe, thème qui était celui d'un colloque organisé par la Fondation Saint-Gerre-Polignac. Et pour en parler, Gérard Bessois, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Cergy-Pontoise. Anne-Marie Autissier, vous nous accompagnez dans cette émission Éclairage. Je rappelle que vous êtes sociologue, que vous avez publié cet ouvrage « L'Europe de la culture » aux éditions Babel et que vous vous occupez aussi de, d'une revue qui s'appelle « Culture Europe Internationale ». C'est volontaire, là, le terme international, il se justifiait ?
Oui, c'est-à-dire que cette revue est née en 1994 et pendant des années, finalement, puisqu'elle a maintenant plus de 10 ans, pendant des années, elle s'appelait Culture Europe, tout simplement. Et puis, à partir de 2002, on a ajouté international. Alors, pourquoi on a fait ça ? On a fait ça parce que on pense que bien sûr que nous, on est passionnés par tout ce qui se passe au niveau de l'Europe même, les échanges intra-européens, les coopérations culturelles, mais on pense qu'en matière artistique et culturelle, de toute façon, en matière de coopération, pas en matière d'identité, mais en matière de coopération, les frontières sont mises pour être sans arrêt dépassées. Donc il suffit que vous mettiez une frontière à un artiste pour qu'il ait envie de la sauter et d'aller voir plus loin. C'est pas nouveau. Ça a toujours été comme ça. Donc si vous dites on ne travaille qu'au niveau intracommunautaire, il y a forcément des gens qui vont venir vous voir en disant oui mais moi je travaille avec des Japonais, moi je connais des Sud-Africains, moi j'ai rencontré des Canadiens, je travaille avec eux.
Donc, alors il y a deux nécessités, il y a aussi la nécessité de la notoriété et puis de la contrainte économique. C'est un marché également
Oui, bien sûr. Oui. Non, mais il se trouve que là, justement, c'est intéressant parce qu'on est dans cette phase de la mondialisation, je dirais cette nouvelle phase de la mondialisation, où au fond il y a presque une convergence entre des curiosités insatiables du milieu artistique et culturel qui veut toujours aller voir plus loin comment ça se passe, et en même temps finalement, comme vous le dites, les contraintes du marché, puisqu'aujourd'hui c'est dans l'espace qu'on réalise une notoriété, c'est pas dans le temps. Donc, effectivement.
Ça, c'est important comme notion. Dans l'espace qu'on réalise une notoriété.
Alors, c'est pas de moi.
Il faut tout de suite se penser à une autre échelle que l'échelle immédiate. Hein.
Oui. Bon. Oui.
Même Paris ne suffit pas.
Non. Même Paris ne suffit pas. Et je vais vous dire une chose que les pouvoirs publics français, je dirais l'État français, commencent à découvrir. C'est que les grandes villes françaises, par exemple, ont développé depuis une dizaine d'années des contacts européens et internationaux formidables. Elles travaillent maintenant en réseau. Et elles
comme Internet, on passe par-dessus les hiérarchies.
Exactement. Donc il y a cet effet rhizomatique, effectivement, qui touche aussi les collectivités territoriales et qui leur permet précisément de contourner le caractère, soi-disant incontournable de Paris, mais c'est valable aussi pour les régions.
Donc Paris n'est plus le recours, n'est plus la solution. On fonctionne beaucoup plus en réseau. C'est vrai à l'échelle française, c'est vrai à l'échelle européenne, c'est-à-dire entre villes françaises, entre villes européennes, mais c'est une réalité, c'est pas seulement un désir ou un objectif à long terme.
Non, c'est déjà vrai, là je parle du domaine culturel et artistique,
bien
toujours,
sûr.
C'est déjà vrai, et c'est plus vrai, je dirais même ailleurs qu'en France, parce que la France, si vous regardez dans l'échiquier, en tout cas ouest européen, la France est un des pays les plus tard décentralisés. C'est-à-dire que par rapport à la Suède, ou par rapport à l'Allemagne, ou même par rapport au Royaume-Uni ou à l'Espagne, vous voyez que on est dans une situation de décentralisation lente, assez contrôlée. Bon. Et donc, c'est pas pareil ailleurs. Et donc, finalement, que vous preniez des pays comme la Belgique ou les pays nordiques, vous voyez très très bien que des capitales régionales se constituent naturellement. Et que ces capitales régionales, eh bien, effectivement, elles utilisent aussi la notoriété dans l'espace, puisqu'aujourd'hui, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, la notoriété dans l'espace. Je voulais vous dire que c'est pas une idée de moi, c'est une idée de la sociologue Raymonde Moulin, qui est une grande sociologue de l'art, et qui a beaucoup étudié la carrière des artistes, et elle écrivait dans un de ses livres, aujourd'hui, on fait pas une carrière dans le temps, mais on l'a fait dans l'espace. Il faut se propulser très vite dans les espaces. Et elle examinait notamment la carrière des artistes visuels. Elle disait, bon, il faut être dans certains catalogues, dans certaines foires, etc., etc. Donc finalement, cette idée de notoriété par l'espace ou à travers l'espace, c'est valable pour les individus, c'est valable pour les producteurs artistiques, mais c'est valable aussi, bien sûr, pour les collectivités territoriales.
On a le sentiment qu'il existe une très forte contradiction entre les aspirations des artistes, la nécessité que vous venez d'évoquer de se propulser dans l'espace et le fait que la culture reste l'apanage d'État, qu'elle reste soumise à des politiques culturelles décidées à l'échelon étatique, qu'il y a des procédures administratives qui sont peut-être un petit peu lourdes, ça doit tirailler dans tous les coins.
Oui, ça tiraille dans tous les coins et je dirais qu'aujourd'hui, le problème principal des politiques culturelles, c'est précisément l'articulation entre national, local d'un côté, européen, international de l'autre. Enfin, c'est-à-dire que la tension, elle est vraiment là aujourd'hui. Comment faire pour que, je sais pas, prenons l'exemple de la France. Alors, comment faire pour que dans un pays comme la France, vous ayez à la fois une politique culturelle au niveau de l'État qui soit capable d'arbitrer, en gros, parce que c'est beaucoup de l'arbitrage, capable d'arbitrer les demandes et les désirs des différentes parties prenantes et des différentes corporations professionnelles. Et d'un autre côté, satisfaire la dimension locale avec des partenariats judicieux. Et d'un autre côté, servir la dimension européenne
Il faut être présent sur les trois points.
Il faut être présent sur les trois points.
J'allais dire un mot peut-être désagréable, rentable.
Oui, ben oui. Mais c'est pas un mot désagréable, c'est une réalité. C'est une réalité ancienne. Il y a longtemps que la culture a affaire avec le marché, quoi qu'on en pense et qu'on en dise. Et je crois que il faut pas du tout faire des illusions rétrospectives. Le marché de l'art, il est spéculatif depuis la fin du Moyen-Âge, au moins en Europe de l'Ouest. Alors c'est
depuis
pas nouveau.
Depuis la fin du Moyen-Âge.
Mais oui, depuis la fin du Moyen-Âge. Dès que les œuvres ont pu circuler, dès qu'elles étaient sur des formats qui pouvaient circuler, vous assistez à des phénomènes spéculatifs. Donc ça c'est pas nouveau. Et ça a été tout à fait renforcé par la Renaissance. Ce qui est nouveau aujourd'hui, je dirais, c'est là qu'effectivement il y a La dimension de rentabilité, elle est à la fois nécessaire et en même temps elle est dangereuse. C'est que vous savez, nous entrons dans cette fameuse économie des services, dite société des services, société post-industrielle. Enfin bon, on est toujours dans une société agricole industrielle, mais aussi dans une société des services. Et d'après toutes les conventions internationales, d'après tous les textes de loi, y compris d'après les textes de l'Union européenne d'ailleurs, du droit communautaire, les arts et la culture, c'est que du service, c'est que ça. Si vous vendez un ticket de cinéma, vous faites un service. Si vous représentez une pièce de théâtre, vous faites un service, vous faites une prestation de service. Si vous prêtez un livre dans une bibliothèque, vous faites une prestation de service. Donc là, on est effectivement au sein de tout ce débat de la marchandisation de la culture, oui.
Donc l'exception culturelle, elle se présente comme un rempart à cette réalité ou ça n'a rien à voir?
Si, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, je dois dire que le traité de l'Union européenne, justement, ça a été repris par le traité institutionnel, mais c'était déjà présent dans le traité instituant la Communauté européenne. Il y a un article qui permet que les États membres de l'Union européenne donnent à la Commission européenne un mandat de représentation dans les discussions commerciales internationales et de façon à ce que la Commission européenne et ses États membres, précisément, se réservent le droit en matière de culture et d'audiovisuel, de réserver leur position, de protéger leur politique publique et je dirais à l'unanimité de voter quand la culture et l'audiovisuel sont menacées précisément dans le cadre notamment des accords de l'Organisation mondiale du commerce.
Donc Anne-Marie Autissier, si je vous suis bien, l'Europe préserve les politiques publiques culturelles de chaque État.
Oui.
En vertu du principe, grosso modo, de l'exception culturelle.
Oui, c'est ça. Alors, ce qu'on appelle la diversité culturelle, dont je rappelle qu'elle est un des objectifs, elle est officiellement un des objectifs du traité. Je ne sais plus comment l'appeler, enfin du traité constitutionnel, voilà. Mais il y a quand même une contradiction, peut-être qui est intéressant de dire, c'est que la culture est aussi, si vous voulez, régie comme l'ensemble des matières, comme la santé, comme l'enseignement, par les politiques communautaires, et notamment la politique de la concurrence, qui est une compétence exclusive de l'Union européenne. Et justement, il y a un fameux article 87 dans le traité instituant la Communauté européenne qui pose problème, parce que dans cet article, il est dit que les aides d'État à la culture au cinéma sont compatibles avec le marché intérieur si elles n'altèrent pas les conditions des échanges. Et ça veut dire que dans l'état actuel des choses, c'est comme si les aides d'État n'étaient pas constitutionnelles et comme si on devait toujours faire un arbitrage entre les intérêts de la libre concurrence et les aides d'État à la culture, à l'audiovisuel. C'était une faiblesse du traité et je regrette que le traité constitutionnel n'ait pas sanctuarisé une fois pour toutes
c'est une brèche,
les aides d'État. C'est une brèche, absolument. C'est une brèche.
Gérard Bossuet est avec nous, professeur à l'université de Cergy-Pontoise. Faire l'Europe sans défaire la France chez Peter Lang, c'est un ouvrage que vous avez publié cette année dans une édition, oui, maison d'édition bruxelloise.
Oui, c'est ça.
Bon, on est dans le faire ou le défaire, là, avec la disposition européenne?
Ah, c'est extrêmement difficile de répondre à votre question, parce que en tant qu'historien, je m'aperçois bien qu'il y a eu des crises. Donc, les crises, on les a surmontées. Il y a eu beaucoup de crises, dans le fond. Je pense à la crise de la chaise vide, je pense aussi à la CED, et elles ont été surmontées. D'autre part, moi, je ne crois pas que l'Europe se fasse et se défasse comme ça. À mon avis, c'est une nécessité, et elle va se faire. Sous quelle forme elle va se faire, voilà la question.
Mais alors, ce que sous-entendait, enfin, plus que sous-entendre d'ailleurs, ce qu'indiquait Mme Autissier, c'était que l'idée de marchandisation de la culture, de libre concurrence, c'est une idée qui, d'une manière ou d'une autre, tend à s'imposer par la fenêtre européenne, alors que par la porte des États, on semble bloqué encore. Hein.
Oui, c'est-à-dire que moi je ne peux pas penser l'unité de l'Europe à travers la marchandisation, comme on dit, de la culture. C'est pas possible. C'est pas un bien que l'on vend, que l'on achète comme ça.
C'est pas un service.
C'est
pas. Pourtant, ça en a tout l'air.
Oui, c'est pas un service. C'est pas un service marchand. C'est une évidence. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que. Dans le fond, je fais rapport au projet européen. Y a-t-il ou non un projet européen dans nos sociétés? C'est un petit peu ça qui est en débat. Le jour où les Européens sauront quel est leur destin, et dans le fond, il n'y a pas encore de destin manifeste de l'Europe et des Européens, mais le jour où ils sauront quel est leur destin, alors, est-ce que c'est le destin que trace M. Blair ou est-ce que c'est le destin que Jean Monnet et d'autres ont esquissé? Je souhaite que ce soit les deuxièmes que je viens de citer, c'est une évidence. Mais c'est une évidence pour moi, français, ça ne l'est pas nécessairement pour les autres. Donc il faut qu'on essaye de bâtir ce destin manifeste dans lequel la culture a sa place.
Mais quelle place? Une place à 0,006% du budget ou une place réelle de levain de la conscience européenne?
Bah oui, évidemment, je ne peux qu'adhérer à votre dernière
proposition.
Mais
ça reste apparemment
assez fantomatique. C'est très curieux parce que dans le fond, vous présentez les choses comme d'un côté quelque chose qui se quantifie, donc on parle de budget européen et de millièmes de budget européen, alors que dans le fond, moi ce qui m'intéresse c'est d'essayer de comprendre quelle est la nature de la conscience européenne et des valeurs européennes, qu'est-ce que nous partageons. À ce moment-là, on aura une réponse à la question de l'exception culturelle. Parce que on se bagarre sur l'exception culturelle parce qu'il y a des gens qui considèrent que les biens culturels doivent être une exception parce que ça représente quelque chose de fort, d'européen, ou de national en Europe et qu'il faut partager avec les autres, mais qu'on ne peut pas vendre. Et puis il y en a d'autres qui considèrent que tout est du domaine de l'échange libéral et marchand.
Donc il ne faut pas attaquer par le quantifiable, il faut déjà attaquer par le sens que l'on donne à sa propre vision des choses.
Tout à fait. Oui.
Mais alors, Anne-Marie Autissier, vous disiez tout à l'heure que, en citant la date de 1945, qu'on était passé quand même à l'état de conscience d'un espace commun, ce qui n'était pas une évidence à l'époque où on a connu l'Europe qui se déchirait. Donc, la notion d'espace commun et de destin commun, elle existe déjà, selon vous. Alors que M. Bossuet semble dire que c'est passablement embryonnaire, tout ça.
Mais je crois qu'on dit un petit peu la même chose, c'est-à-dire que Gérard Bossuet il se situe dans une perspective d'historien, donc c'est forcément une perspective à long terme. On dit la même chose dans le sens où il me semble que effectivement cette conscience existe et elle est, si vous voulez, elle est soulignée ou elle est affirmée par des personnages comme effectivement Jean Monnet, etc. Elle n'est pas forcément à ce moment-là une conscience large. Et c'est peut-être ça la difficulté, et c'est peut-être ça aujourd'hui l'un des plus grands handicaps de l'Europe, c'est-à-dire il faudra bien faire l'Europe des peuples. Enfin, ça a l'air d'être un peu un slogan, mais je veux dire, l'Europe des élites, c'est une chose, mais évidemment, l'Europe des élites ne suffira pas. En tout cas, moi, je suis persuadée qu'on est rentré dans une période là, enfin, c'est ce que je dis, c'est intuitif plus que raisonner. Mais on est rentré dans une période où absolument l'institutionnalité européenne doit faire la preuve qu'elle est utile aux gens, doit faire la preuve qu'elle est accessible et qu'elle est utile aux gens.
Mais parmi les 200 projets, vous en avez cité quelques-uns, les 200 projets culturels à l'échelle européenne que soutient la Commission, vous avez le sentiment que ces projets s'adressent au peuple ou qu'il s'agit de colifichets pour les élites ?
Oui, bah c'est une bonne question. Je crois que les critères sont tellement contraignants, si vous voulez, que les critères administratifs en particulier de ces projets sont tellement contraignants, que c'est vrai que à l'usage, il est évident que c'est plus facile pour une structure comme, je sais pas moi, le Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence de monter un programme avec Culture 2000 que pour une petite association comme la compagnie de danse Exquisite à Saint-Ouen. Mais la compagnie de danse Exquisite à Saint-Ouen, elle le monte quand même, son projet. Donc finalement, je veux dire qu'il y a des gens qui sont assez volontaires, assez déterminés pour en définitive instrumentaliser les difficultés à leur profit. Mais c'est vrai que si on regarde les critères et le croisement des critères, on peut se dire que oui, c'est assez élitaire.
Vous le regrettez ?
Bah oui, enfin, c'est-à-dire que je pense que je dis pas que je suis pas sûre qu'il faille que tout le monde monte des projets européens, et surtout que tout le monde monte des projets européens avec la Commission européenne, entendez-moi bien. Hein. Je vous ai parlé des collectivités locales tout à l'heure, on pourrait parler des jumelages, on pourrait donner des milliers d'exemples et on pourrait vous montrer des tas de choses qui se font sans l'Union européenne. Hein. Donc là, on a effectivement une espèce d'entonnoir qui s'appelle les 200 projets montés dans le cadre de Culture 2000. Je suis pas sûre qu'il en faille beaucoup, beaucoup plus. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je pense simplement, c'est que je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie. C'est-à-dire que, officiellement, le programme est ouvert à tout le monde. Il est ouvert. Il a une forme d'idéologie de démocratisation culturelle, si vous voyez ce que je veux dire. Ça doit être accessible aux jeunes, aux enfants, aux handicapés, aux gens qui sont exclus de la culture, etc. Bon, tout ça, c'est...
Ce qui en soi est légitime et qui relève de la politique menée en France, quand même, depuis Malraux, peut-être.
Ce qui est totalement légitime, sauf que, dans la réalité, quand on regarde, encore une fois, le croisement des critères et des contraintes, on s'aperçoit que les culturels qui montent des projets se trouvent face à des critères qui sont extérieurs, qui sont extra-artistiques, et que finalement, quelque part, le projet, il est autant jugé sur des questions de gestion extra-artistique que sur des questions artistiques. Alors là, il y a un petit souci quand même.
Ah là, c'est une question alors de fonctionnement, de oui. Tracasserie administrative, de... C'est bête et méchant ? Ou alors c'est un problème de sens, de vision des choses ?
Non, je crois que alors il y a deux choses. Il y a la question du sens, et comme Gérard l'a dit, chercher le sens toujours. Et là, je suis complètement d'accord avec lui. Il faut parler du sens d'abord parce que les moyens viennent après quand on a trouvé le sens commun, si j'ose dire. Hein. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la culture, l'art, c'est jamais consensuel. Jamais, je veux dire, une politique culturelle démocratique, c'est un des exercices les plus difficiles. Si vous voulez vous faire des ennemis, comme disait quelqu'un de ma connaissance, soyez ministre de la Culture. Jamais tout le monde sera content, jamais tout le monde trouvera ça rigoureux, tout le monde voudra toujours s'en mêler parce que la culture, tout le monde s'y connaît. Forcément, c'est pas la peine d'être spécialiste. Bon, vous reportez
on
ça.
On s'y connaît d'autant plus que c'est démocratique ou censé l'être.
Vous reportez ça au niveau communautaire. Vous avez les mêmes causes qui produisent les mêmes effets.
Donc un gros cafouillage
parce que c'est pas consensuel, parce que la Commission européenne, parce que le Parlement proteste contre la Commission européenne a peur, les États membres ont peur, tout le monde a peur de se faire taper sur les doigts. Le résultat, c'est que qu'est-ce qu'on fait ? On traite un petit peu la culture et les arts comme une priorité négative, comme avait dit magnifique formule de quelqu'un de la Commission. Et
priorité
le résultat,
négative.
Priorité négative. Ça avait été employé dans le cadre des accords ACP, vous savez, Afrique, Caraïbes, Pacifique. La culture est une priorité négative. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça embête tout le monde et qu'on ne peut pas être d'accord là-dessus. Donc, c'est pas porteur de visibilité consensuelle, vous voyez ce que je veux dire. Résultat des courses, c'est un portefeuille un peu abandonné et on met à la tête des questions culturelles à la Commission européenne, des personnes qui ont tous les mérites du monde, parce que les fonctionnaires communautaires sont des gens de haut niveau, sauf qu'ils n'ont jamais vu un artiste de leur vie, ils ne savent pas ce que c'est que de monter une expo, ils ne savent pas ce que c'est qu'un spectacle.
Donc
pour
là,
être
c'est
un peu brutal.
La technocratie, quoi.
Il est
est là, il est venu, le chevalier des mots, celui qui s'est battu sans peur et sans reproche pour que vive le bon français, qui nous a fait aimer la lecture et même l'orthographe, vous l'aurez reconnu, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie. Et quand il parle du vin, son vocabulaire devient gouléant, on croirait qu'il déguste les mots français. C'est un régal, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie.
La culture et l'Europe. Europe, es-tu là? C'était la question que l'on posait au début de cette émission avec Anne-Marie Autissier et Gérard Bossoir. Vous avez participé à un colloque intitulé « La culture et l'Europe ». Et c'est curieux la façon dont on tourne un peu cet échange, parce qu'on a le sentiment que l'Europe est une béquille pour la culture, qu'elle s'y prend un peu mal dans sa vision des choses, que le destin européen n'est pas forgé. C'est peut-être votre avis, Gérard Bossoir. Alors, il y a deux pays par rapport auxquels j'aimerais bien qu'on se situe, la Turquie et les États-Unis. Parce que vous venez de parler, Anne-Marie Autissier, de priorité négative. Mais vu d'Europe, on n'a pas du tout le sentiment que la culture soit une priorité négative pour les États-Unis, Gérard Bossoir. Moi, j'ai le sentiment plutôt que c'est un fer de lance.
La culture américaine ?
Alors, que l'on pense qu'on la dénigre, ou qu'elle sert d'outil stratégique, d'outil de pénétration économique
Ça dépend ce qu'on entend par culture américaine.
Je ne sais pas bien
ce que vous entendez par culture américaine. Est-ce que, bien évidemment qu'il y a une culture américaine, ça va de soi. Il y a un art américain, on le sait bien, les marchands d'art sont aux États-Unis, à New York, ils ont déserté Paris. On le regrette et c'est comme ça. Mais alors, votre question, c'est, dans le fond, est-ce que cette culture américaine, elle sert à
au service d'une politique.
C'est ça. Oui, elle est sûrement au service d'une politique. C'est-à-dire que moi, je suis pas très connaisseur des grands réseaux culturels internationaux comme l'est ma collègue Anne-Marie Autissier. Donc, ce que je constate, c'est qu'effectivement, les États-Unis, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, cherchent à avoir aussi une présence culturelle. Une présence culturelle, mais moi, je l'aperçois non pas à travers des formes spécifiques, par exemple, de concurrence au niveau artistique, mais je l'aperçois plutôt comme une volonté d'imposer ou de proposer, on hésite toujours entre les deux termes, une sorte de vision du monde. Donc c'est plutôt à ce point de vue-là que je discuterais plutôt que sur les qualités de certains ballets de danse bien connus.
Oui, il ne s'agit pas de porter un jugement sur le fond, mais sur simplement la conception qu'un pays se fait de son propre rayonnement culturel,
Si vous nous emmenez, sur la discussion du rôle des États-Unis dans le monde. Je crois qu'on n'a pas terminé l'émission avant longtemps. Simplement, une observation que je peux faire, c'est que face aux États-Unis, on trouve tout de même, par exemple, une culture politique comme celle de la France, qui est aussi universaliste. Bon, ça, c'est archi connu, mais encore faut-il le dire. Mais en face d'eux, ils n'ont pas effectivement une culture européenne. Et tant mieux, dans le fond, c'est peut-être ça qui fait notre force. C'est peut-être ça aussi qui fait la leur. À contrario,
la force,
quand
c'est
on...
quoi? C'est la diversité européenne? C'est le fait que.
Mais c'est, bien sûr,
pas c'est... un bloc en
oui,
face.
C'est facile de dire ça, parce que je crois qu'on le répète toujours, peut-être pour se consoler, en disant qu'il y a une diversité européenne et que c'est ça qui fait notre force. Mais à partir du moment où j'ai envie de dire que chaque peuple comprend qu'il est porteur de quelque chose d'intéressant, d'une culture intéressante, de réactions intéressantes, de sensibilité. Vous voyez, c'est pas uniquement une culture littéraire, par exemple, une culture artistique. À ce moment-là, à partir du moment où cette culture n'est pas impérialiste sur les autres en Europe, comme l'a été dans le fond aussi quand même un peu la culture française au 19e siècle et au 18e siècle, mais à partir du moment où on arrive à reconnaître à l'autre sa place, je crois que ça fait notre force. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas capable de se le dire encore et d'en vivre. Voilà, c'est ça l'idée, d'en vivre. Pourquoi n'en vivons-nous pas de cette diversité qui peut apparaître comme une faiblesse? Et pour les États-Unis, cette diversité européenne apparaît comme une faiblesse, puisqu'il paraît que nous sommes Vénus et qu'eux sont Mars. Moi, je préfère Vénus à Mars, d'ailleurs. Mais enfin, bon, voilà.
Mais alors, je vous retourne la question. Pourquoi n'en vivons-nous pas?
Alors, pourquoi n'en vivons-nous pas? C'est à la fois simple et compliqué. Moi, évidemment, je suis historien, donc ça me ramène à l'histoire. C'est que simplement, notre histoire, elle est faite de heurts, d'affrontements, de violences, et que cette histoire, elle nous divise. Ça, c'est ça qui est important. Elle nous divise même si les élites européennes existent. Quelqu'un a dit, je crois que... Enfin non, je sais plus. Quelqu'un a dit qu'il fallait élever une statue à Erasme. Hein, et qui serait le prototype en quelque sorte de l'homme européen. Alors très bien, mais encore faut-il.
On en disait un mot tout à l'heure, justement.
Ah, voilà. Encore faut-il que les citoyens qui disent ça ou ceux qui en parlent en vivent d'Erasme. Qui a lu Erasme ? Ça m'étonnerait que si on fait un sondage dans la rue, on ait beaucoup de réponses. Autrement dit, nous avons fait plutôt la guerre. C'est plutôt ce qui nous en reste. Et dans le fond, ce qui est important, c'est de constater que le rapport à l'histoire, il a changé depuis 1940. Et c'est ça qui est fondamental. C'est-à-dire qu'on accepte l'autre comme il est, mais on n'arrive pas encore à vivre de cette reconnaissance qu'il ne faut plus la guerre. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à réinterpréter l'histoire européenne. Il faut que, d'une part, les citoyens européens aient la mémoire de l'histoire, mais que, d'autre part, ils arrivent d'une certaine façon à la réinterpréter. Et la réinterpréter, c'est une transformation intérieure. C'est pas décrété par les États. Donc c'est une disposition intérieure. Moi j'appelle à une disposition intérieure nouvelle des citoyens pour essayer de réinterpréter l'histoire. C'est-à-dire prendre conscience que notre histoire elle est dramatique, ne pas cacher les aspects dramatiques de cette histoire. Le dire même, ce qui justifie le travail des historiens et de tous ceux qui veulent s'intéresser aux loupés de l'histoire, aux crises de l'histoire, aux drames de l'histoire et aux différents génocides. On est bien d'accord là-dessus. Mais en même temps, il faudrait bâtir une conscience nouvelle. Et de cette conscience nouvelle, de cette prise de conscience de la violence et de la diversité, doit naître un nouvel homme européen.
Mais alors, souscrivez-vous à l'idée que l'Europe, c'est le dépassement justement de ces guerres, de tous ces déchirements, et que l'Europe, par la culture, à plus forte raison, c'est le biais par lequel on va réussir ce dépassement.
C'est-à-dire que la notion de culture, si vous voulez, je la vis pas sans doute comme Anne-Marie ou comme d'autres peut-être, parce que c'est pas la culture qui va être la solution au problème. C'est pas la culture. La culture, c'est faire de beaux spectacles, c'est faire de beaux films, c'est développer la lecture chez les uns et les autres. Mais c'est pas la culture qui va brutalement résorber tous les problèmes.
Non,
parce
mais
que...
c'est aussi la mémoire, c'est aussi l'histoire.
Oui, ça peut être aussi la mémoire et l'histoire, d'accord. Bon, que la culture ait un rôle évident, c'est une évidence. Mais je plaide plutôt pour une sorte de transformation intérieure à laquelle la culture, évidemment, peut aider.
Bon, alors, que pense la directrice de la revue Culture Europe Internationale ? Là, on a trois termes qui méritent d'être élucidés dans le cadre de ce débat.
Oui,
alors,
si
vous l'avez déjà expliqué tout à l'heure, mais oui. Par rapport à ce que vient de dire Gérard Bossuard.
Alors, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que si on a créé cette revue, c'était justement pour aller un peu à contrario du discours dominant que l'Europe, c'est ennuyeux, qu'il se passe rien, que personne ne fait rien, etc. Enfin, en France, discours dominant en France. Et donc, on voulait montrer justement qu'il y avait une fantastique pépinière d'initiatives, de partage. Bon, c'est notre idée en tant que sociologue de faire cette revue justement au service des professionnels de l'art et de la culture. Ça, c'est une chose. La question de Culture Europe Internationale, je crois que moi, je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure. Je pense qu'il y a une en matière culturelle et artistique, je suis d'accord avec Gérard Bossuard. La culture, voire la culture au sens de la mémoire ou du travail sur l'histoire, c'est une solution parmi d'autres. C'est absolument pas la solution. C'est-à-dire que là, je suis vraiment, je m'inscris complètement en faux contre tous ces colloques et grands discours qui vous expliquent que, en effet, la culture c'est la solution. Non.
Pas de thérapie par la culture.
Il n'y a pas de thérapie par la culture. Non, il n'y a pas de thérapie par la culture. Et à chaque fois qu'on a voulu faire des thérapies par la culture, ça s'est mal passé. Ça, on peut aussi parler des leçons de l'histoire.
Exemple.
Des totalitarismes.
Ah oui.
Au Chili, le général Pinochet a fait une thérapie par la culture. Mais M. Goebbels l'avait fait aussi.
Donc c'est dangereux.
Culture, ça, mais enfin, c'est pas de la culture, mais c'est vrai qu'il l'a utilisé. Ils ont utilisé le terme de culture.
Ils ont instrumentalisé la culture, ils ont rallié des artistes, ils ont mis en scène en quelque sorte leur propre régime.
Dans l'Espagne
régime,
fasciste aussi, peut-être.
Dans l'Espagne fasciste, enfin bon, on peut prendre des tas d'exemples. Donc je trouve que c'est là que je vous dis le rapport entre le politique et la culture, il faut faire attention parce que c'est vraiment matière explosive. Bon, ça c'est un point. Par ailleurs, je pense que pour qu'on ait une meilleure conscience européenne, il faut deux choses. Il y a une question d'éducation aujourd'hui, on parle d'éducation interculturelle. Bon, c'est un petit peu une tarte à la crème, mais c'est vrai, ça existe. Moi, je pense vraiment que la transformation intérieure dont parle Gérard, c'est... Eh ben, c'est quelque chose qui s'apprend, hein. Ça s'apprend, c'est-à-dire soyons européens dès la maternelle. Enfin, de toute façon, les pères de l'Europe ne disaient pas autre chose. Soyons européens dès la maternelle. Donc voilà, c'est cette idée de l'Europe qui va comme ça s'immiscer dans notre enfance, dans nos transmissions affectives. Bon, voilà, on va transmettre effectivement l'Europe comme on transmettait avant la France, si vous voulez.
Mais je pose une question concrète là. Soyons européens dès la maternelle, ça veut dire apprendre l'anglais?
Oui, c'est déjà une base.
Ou une autre langue.
Écoutez, par exemple, à l'Institut d'études européennes, on postule que les étudiants, quand ils sortent de l'Institut, ils doivent manipuler l'anglais forcément, et plus une langue, obligatoirement, une autre langue que leur langue maternelle. Donc déjà, ils doivent être à la tête de trois langues, et on les incite fortement à en apprendre une quatrième.
Ouais, mais alors les Français sont loin, là.
La jeune génération, je ne suis pas d'accord
moins.
Avec vous.
Mmh.
Ça change. C'est un changement qu'on ne voit pas, mais c'est en train de changer.
Donc, soyez européen, ça commence par apprendre les langues du voisin.
Les symboles du voisin, les symboles affectifs du voisin, les fêtes nationales du voisin, les comptines du voisin, les chansons du voisin. C'est des tas de choses, c'est tout le monde. Si vous voulez, ça consiste à se plonger. Alors là, effectivement, l'art sert peut-être à quelque chose, à se plonger dans l'imaginaire des autres. Mmh. Que l'imaginaire des autres, ça devienne on puisse le partager.
Belle formule, se plonger dans l'imaginaire des autres.
Oui, le problème, c'est que le résultat n'est pas à la hauteur des attentes, parce que je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Anne-Marie sur le projet, y compris aussi sur le diagnostic concernant l'utilisation des langues. Je crois qu'on a tous une expérience vis-à-vis des étudiants, et c'est vrai qu'ils parlent mieux les langues étrangères. Mais moi, ce qui m'inquiète un petit peu, et c'est le problème aussi du dernier référendum, c'est que, dans le fond, la génération qui n'est pas ma génération. Moi, je suis de la génération d'après, du baby-boom. La jeune génération qui est des années 80, c'est une génération qui, justement, a bu le lait européen. Et dans le fond, je suis extrêmement étonné des réactions de certains jeunes par rapport au projet de traité européen. Alors, si on le voit simplement comme une analyse différenciée, une analyse politique différenciée, on peut comprendre. Mais en même temps, moi, j'ai cru sentir quelques réticences vis-à-vis de l'Europe qui a été construite depuis 60 ans. Alors, je sais très bien que rappeler l'histoire, en l'occurrence, ça sert à rien. Mais il en reste pas moins tout de même qu'ils ont bu le lait de l'Europe et ils n'ont pas voté pour le projet européen. Ça pose problème.
Et ça, ce n'est pas la moindre des contradictions que les observateurs ont souligné. Un dernier mot, quand même, sur la Turquie. Est-ce que par le biais de la culture, Anne-Marie Tissier, on l'avait évoqué plus ou moins, est-ce que par le biais de la culture, là aussi, il y a des ponts qui peuvent être dressés entre l'Orient et l'Occident?
Quand on présente l'affaire comme vous la présentez, c'est-à-dire dresser des ponts entre l'Orient et l'Occident. Ah non, moi au contraire, je trouve que c'est drôlement sympathique et que ça répond à la vocation humaniste et de cet institut où je suis aujourd'hui et de Paris tel que je le vois briller sous le soleil. Mais si on pose les problèmes en termes d'institutions, de fonctionnement, si on pose les problèmes en termes d'institutions européennes, en termes de projets communs, j'avoue que l'entrée de la Turquie dans l'Union me poserait problème. En revanche, en termes de dialogue culturel avec la Turquie, pas de problème. C'est la vocation d'un Européen de travailler avec toutes les cultures, de les valoriser. Le problème, c'est de savoir si on fait équipe ensemble pour un projet politique. Et là, j'en suis pas sûr.
Anne-Marie Autissier, une piste inexplorée?
Sur la question culturelle et la Turquie, l'identité. Moi, je crois que on peut aussi utiliser l'histoire dans le sens du partage culturel, puisque vous savez bien que l'Empire ottoman était présent en Europe centrale et orientale depuis 5 siècles, donc c'est pas un nouveau venu de ce point de vue-là, même si c'était un empire. Maintenant, moi, je trouve qu'il y a quand même une chose qu'il faut dire, c'est le formidable progrès accompli récemment par ce pays, les débats d'idées qui ont lieu en Turquie aujourd'hui, le fait que presque plus rien n'est tabou, ni même le génocide arménien, c'est-à-dire on en parle publiquement, il y a énormément, il y a un vrai...
bouillonnement
et floraison, si vous voulez, de la société. Et je pense, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au professionnel de l'art, c'est aussi parce qu'il y a la perspective communautaire. Alors donc, je trouve que c'est encore un paradoxe, mais c'est quelque chose de très très intéressant et il ne faudrait pas gâcher ça ou passer à côté.
Anne-Marie Autissier, Gérard Bossuet, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission Regard croisé sur la culture et l'Europe. C'était le thème d'un colloque organisé par la Fondation Saint-Gerard-Polignac. Je rappelle, Gérard Bossuet, que vous avez publié Faire l'Europe sans défaire la France aux éditions Peter Lang, nos amis belges. Anne-Marie Autissier, vous dirigez la revue Culture Europe Internationale et vous avez publié l'Europe de la culture, histoire et enjeux aux éditions Babel.